7 juin 1954, dans la banlieue de Manchester. Comme chaque soir, Alan Turing mange une pomme avant de s'endormir. Cette fois, le fruit a été trempé dans le cyanure. Une morsure a suffi pour que disparaisse dans l'indifférence la plus complète le père de l'informatique et de l'intelligence artificielle. Un cerveau s'est suicidé. Pourquoi ? Autant vouloir dialoguer avec les ombres. Tous ceux qui se sont donné la mort depuis la nuit des temps n'ont pas toujours laissé de message. Mais ceux qui ont cédé à cette tentative d'explication ne nous ont pas éclairé davantage. Dans un mot près du lit sur lequel il s'était tiré une balle dans la bouche, Romain Gary laissait entendre que le pourquoi, s'il y avait un pourquoi, se trouvait peut-être dans son œuvre. Pour un écrivain, la chose peut s'admettre. Mais pour un Turing, faut-il chercher une explication dans les équations ? À moins que ce ne soit simplement sa vie qui l'ait conduite à sa mort. Raisonnement imparable pour un logicien, mais insuffisant pour un psychiatre. Certes, le mathématicien était un inconditionnel de Blanche-Neige de Walt Disney, sorti en 1937. Certes, il était perturbé par une sexualité envahissante. Certes, il dépensait son appétit dans le marathon dont il devint un champion. Certes, il avait poussé sa réflexion aux frontières des mathématiques en recherchant, au risque de se perdre, le programme de la nature, celui qui aurait expliqué l'apparition de la vie. Mais ce qui a poussé ce génie scientifique au désespoir suprême est aussi à débusquer dans la morale de la société post-victorienne dans laquelle il a vécu, société typiquement britannique, dont il fut pourtant un héros lors de la Seconde Guerre mondiale. Ce fut lui, en effet, qui réussit à décrypter les messages codés par la machine Enigma et envoyé par radio de Berlin aux sous-marins allemands qui faisaient le blocus de l'Angleterre. Il sera décoré pour avoir contribué à éviter l'invasion nazie et participé à la victoire de 1945. Il aurait dû l'être pour la suite. Après la guerre, ce jeune homme tourmenté, également théoricien de la biologie et philosophe, a conçu le projet de l'ordinateur et l'a rendu opérationnel avant le projet américain concurrent. Il avait également envisagé de construire un cerveau. Mais de tout cela, peu de gens furent informés. Alan Turing, 1912-1954, était un homme secret, condamné au secret pour ses travaux avant de l'être pour homosexualité. À la suite d'un procès discret, il fut contraint de choisir entre la prison et un traitement hormonal. Il choisit la seconde solution qui entraîna des effets secondaires grotesques. Il devint impuissant et des seins lui poussèrent. Son inspiration s'était tarie et on l'écarta de tout travail créatif sur les calculateurs. N'en pouvant plus, vidé par la castration chimique et la dépression, il mit fin à ses jours à l'âge de 43 ans. On reconnaît maintenant qu'Alan Turing fut le grand pionnier des théories informatiques et le créateur de l'intelligence artificielle. Son œuvre complexe permet également de mieux comprendre le monde de la technoscience dans lequel nous vivons aujourd'hui. Cette histoire et cette pomme croquée, on les retrouve comme un hommage crypté dans le logo de l'une des plus grandes aventures industrielles informatiques du XXe siècle, avec les produits Macintosh, dont la raison sociale, Apple, est représentée par une pomme croquée. Ajoutons que cette pomme informatique s'est parée quelque temps des couleurs de l'arc-en-ciel, comme le Rainbow Flag, le drapeau de la communauté gay, avant d'opter pour un bleu beaucoup plus consensuel jusqu'aux déclinaisons monochromes d'aujourd'hui. Après une longue période de purgatoire et d'oubli, le destin de ce personnage au visage long et au regard perdu a fini par illustrer l'omniprésence de l'ordinateur dans la société autant que le martyr de la cause homosexuelle. Alan Turing fut cet homme qui a croqué la pomme au sens propre, mais aussi celui qui a mordu à la pomme de l'interdit moral, tout comme il avait goûté à la pomme du savoir prométhéen en espérant réécrire mathématiquement la vie. De tous ses fruits défendus, il balisa son destin. Il le fit prestement, à la vitesse du marathonien qu'il était aussi. Jamais, en effet, on ne trouva un savant qui allia avec tant d'harmonie la tête et les jambes. L'esprit embrumé par les équations, Alan Turing a mené sa course à son rythme, toujours droit devant, en distinguant de moins en moins la ligne d'arrivée. Peut-être ne l'intéressait-elle plus. Il lui suffisait d'avancer pour se convaincre d'aller plus loin, en ne voyant pas qu'il s'éloignait d'autant de lui-même, de son enfance, de son insouciance, de cette capacité à s'interroger sur tout. Turing, le coureur de fond, avait besoin de s'enivrer de savoir, de sexe, de vie pour rester vivant. Au talent pédagogique du prof de maths, qui ne passa pas pour autant à la postérité, il allia les dons extraordinaires du savant en quête de la vérité du monde. Il y a une similitude entre le vertige poétique et le vertige mathématique. Tous deux fonctionnent sur le symbole. Ils utilisent un langage codé et procurent le sentiment d'avoir trouvé, d'avoir dit juste, d'accéder à une autre dimension de l'art et du savoir. Pour Turing, un homme sans pensée mathématique était réduit à l'état de simple spectateur du monde. Le grand sociologue Norbert Elias l'a brillamment montré. L'homme n'est pas une entité indépendante, mais un processus de construction directement inséré dans le flux temporel de son époque. Le « moi » n'a rien d'abstrait. Chaque destinée singulière est le produit d'une tension contradictoire entre un libre arbitre, des désirs, des besoins spécifiques et une matrice culturelle sur laquelle sont gravées les valeurs et les normes du temps. Cette tension, trop forte, trop pesante, brisa Alan Turing comme un miroir sur lequel on aurait trop appuyé. De cette vie éclatée, il reste un destin exceptionnel, fulgurant et tragique.